VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 juin 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour, pour commencer les titres.
Au Mali, des blessés dans une marche du mouvement Trop c'est trop, dispersés par les forces de l'ordre.
En Mauritanie, report de 3 semaines du référendum sur le projet de révision constitutionnelle qui était prévu le 15 juillet.
Au Burkina, l'opposition dénonce une remise en cause des acquis démocratiques après la présentation d'un projet de réforme du code électoral.
Lancement hier à Yaoundé par 19 pays africains d'un réseau pour combattre la criminalité maritime dans le golfe de Guinée.
Législative en Grande-Bretagne, la première ministre conservatrice, Theresa May, a perdu sa majorité absolue au Parlement.
Ici à Washington, déposition très suivie du directeur limogé du FBI au Sénat, James Comey, convaincu que le président Donald Trump cherchait à lui faire abandonner l'enquête sur un ancien conseiller présidentiel.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 10 blessés, dont 3 femmes et quelques dégâts matériels, c'est le bilan de la marche pacifique du mouvement Trop c'est trop. Les marcheurs, qui ont été dispersés par les forces de l'ordre, voulaient protester contre la tenue du référendum du 9 juillet prochain. De Bamako, précision de notre correspondant Kassim Traoré.
La marche de la plateforme citoyenne et démocratique Trop c'est trop a été empêchée par les forces de l'ordre. Malik Konaté, chargé de communication du mouvement Trop c'est trop.
La marche était uniquement pour demander d'abord non au référendum du 9 juillet. S'il y a une partie du territoire national, c'est-à-dire est occupée ou menacée, quoi que ce soit, on ne doit pas penser à une révision constitutionnelle. Et aujourd'hui, il y a 59 communes au Mali, là où l'État n'est pas.
Il a fallu l'usage de la force pour disperser les marcheurs contre la révision constitutionnelle.
Il y a une dizaine de personnes qui ont été touchées par les forces, tabassées par les forces de l'ordre, mais on peut déplorer 3 personnes qui ont reçu des coups avec les matraques. Il y a des gens qui ont perdu leur téléphone. Il y a une moto aussi qui a été endommagée. Ça veut dire qu'on ne sommes plus dans un État démocratique, nous sommes dans un régime dictatorial.
Les responsables du mouvement Trop c'est trop disent qu'ils ne sont pas découragés.
Le samedi, à partir du 10e, nous allons sortir. Cette fois-ci, ce n'est pas la bourse de travail. S'ils veulent nous cantonner là, cette fois-ci, ils vont nous cantonner devant le monument de l'indépendance. Et la lutte ne fait commencer. Il y a un seul slogan, la patrie ou la vie nous vaincront. Nous allons rester en vie et nous vaincrons, Inch'Allah.
Le mouvement reste mobilisé et réitère son appel au peuple malien de bloquer le projet de révision constitutionnelle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, le référendum sur le projet de révision constitutionnelle prévu le 15 juillet a été reporté de 3 semaines au 5 août. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, Ahmedou Ould Abdallah, lors d'un point de presse. La CENI avait demandé la semaine dernière un tel report, parlant notamment de la conjoncture difficile que traverse le pays. Approuvé par l'Assemblée nationale, le texte, qui prévoit la suppression du Sénat, avait été rejeté en mars par les sénateurs, pourtant majoritairement favorables au pouvoir, d'où le référendum.
L'opposition burkinabé dénonce, je cite, une remise en cause des acquis démocratiques après la présentation d'un projet de réforme du code électoral. Elle accuse le gouvernement de vouloir supprimer la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le texte parle d'une autorité administrative indépendante chargée de l'organisation et de la supervision des opérations électorales et référendaires sans donner son nom. L'opposition burkinabé dit sentir une volonté de supprimer la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans son format actuel et de transférer ses prérogatives au ministère de l'administration territoriale. Elle exige alors le retrait pur et simple de ce projet. Le gouvernement nie cela et avance qu'il n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI. L'opposition dénonce également l'organisation future du vote des Burkinabés de l'étranger et l'autorisation de l'utilisation de l'acte de naissance et des jugements supplétifs pour l'établissement et la révision des listes électorales. Elle estime que ces documents sont falsifiables et donc une source potentielle de fraude. En décembre, l'opposition avait apporté des amendements sur des aspects précis du code électoral en relecture. Elle estime que ces observations n'ont pas été prises en compte.
19 pays d'Afrique ont lancé hier à Yaoundé un réseau pour combattre la criminalité maritime sous toutes ses formes dans le golfe de Guinée. C'est un vaste espace stratégique qui va du Sénégal à l'Angola. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le réseau interrégional pour les golfes de Guinée a annoncé que 19 pays littoraux, allant du Sénégal à l'Angola, vont commencer à travailler ensemble pour combattre la criminalité en mer. Cet espace est le théâtre d'activités criminelles ou illicites, notamment la piraterie, les enlèvements, vols en mer armée, des trafics en tout genre. Selon des experts, si la piraterie semble avoir baissé dans le golfe de Guinée ces 5 dernières années, d'autres activités comme la pêche illicite gagnent du terrain. Ces réseaux, sous la bannière de l'Union européenne, doivent aider à combattre la criminalité en mer. Dans ce sens, un accord a été signé avec une société française. Le responsable du projet, Jean-Pierre Labonne, espère que d'ici 4 ans, les 19 pays vont pouvoir échanger des informations.
L'Égypte a demandé hier à l'ONU d'enquêter sur une énorme rançon que le Qatar aurait versée à un groupe terroriste lié au groupe État islamique pour obtenir la libération de membres de sa famille royale détenus en Irak. L'ambassadeur adjoint égyptien à l'ONU, Ihab Mustafa, qui a demandé l'enquête, n'a pas donné de preuves ni de détails, se contentant d'affirmer que toute la presse en parle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre conservatrice Theresa May était pressée de démissionner vendredi au lendemain d'élections qui ont vu son parti perdre la majorité absolue au Parlement britannique, un résultat choc qui plonge le pays dans l'incertitude peu avant l'ouverture des négociations du Brexit. Jean-Roger Bion.
Oui, c'est un échec personnel pour Mme May qui avait convoqué ses élections législatives, anticipé en comptant en obtenir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne. Les conservateurs sont en tête du scrutin, mais ont perdu une douzaine de sièges, tandis que l'opposition travailliste en a gagné une petite trentaine, selon ses résultats quasi finaux, au terme desquels les Tories ne peuvent plus obtenir de majorité absolue. Madame May, qui disposait d'une majorité de 17 sièges dans le Parlement sortant, espérait avoir les coudées franches pour négocier un Brexit dur avec les 27 à partir du 19 juin, un an après le référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais les travaillistes de M. Corbyn, tenant de l'aile gauche et qui a mené une campagne jugée réussie, ont contrarié ses plans. Largement réélu dans sa circonscription d'Islington, au nord de Londres, il a immédiatement appelé Mme May à la démission.
Merci Jean-Roger Bion. Ici à Washington, le directeur limogé du FBI, James Comey, a dit hier croire que le président Donald Trump tentait de lui faire abandonner l'enquête sur Michael Flynn, ex-conseiller en sécurité nationale de M. Trump. Déposant devant la commission sénatoriale du renseignement, M. Comey a aussi accusé les officiels à la Maison-Blanche de diffamation et de mensonges purs et simples à son encontre pour cacher les raisons de son limogeage.
Pour lui, pas de doute possible, il a été démis de ses fonctions à cause de l'enquête russe, allusion à l'ingérence présumée de la Russie dans la présidentielle de 2016 en faveur de M. Trump et contre sa rivale démocrate Hillary Clinton. Selon M. Comey, le but était de modifier la façon dont l'enquête sur la Russie était conduite, soulignant que c'est très grave. En réaction, Mark Kassovitz, l'avocat personnel du président Trump, a dit à la presse, et je cite, « Sur le fond comme sur la forme, le président n'a jamais dit à M. Comey, j'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté. » Fin de citation.
Et la déposition de James Comey a été très suivie ici à Washington. L'événement retransmis en direct à la télévision a passionné de nombreux habitants de la capitale. Claire Morin-Gibourg en a rencontré quelques-uns, dont la traductrice Sarah Gahem.
Ce qui se passe est très grave. J'étais un peu étonnée, mais je pense que connaissant Trump dès le début... Bien sûr, si c'est vrai, c'est pas de surprise, parce que n'importe quelle personne, pour arriver là où il est maintenant, le président, on peut faire toute chose pour influencer d'autres personnes. Je peux pas dire oui, il a fait ça, ou bien je peux pas dire non. Si c'est vrai, c'est pas une surprise.
Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des implications graves dans la politique américaine?
Peut-être. Tu peux pas avoir confiance en tout ce qui se passe, ou bien tout ce qu'on nous dit. Ça nous fait peur. Surtout... Si nous pensons au futur, ça c'est pas facile du tout. Mais le plus grand problème qu'il a, pour moi Trump, c'est qu'il n'écoute pas les conseils des autres qui l'entourent. Il a beaucoup de bonnes personnes, des personnes très intelligentes avec lui. Mais son premier problème, si on lui donne un conseil, il n'écoute pas. Il veut faire ce qu'il a dans sa tête et faire son Twitter chaque matin de ce qu'il veut dire.
Sarah Gahem, traductrice à Washington. Pyongyang s'est félicité vendredi de l'essai réussi d'un nouveau missile de croisière Solmer destiné à frapper tout bâtiment ennemi qui menacerait la Corée du Nord. Le test de jeudi, le cinquième en un mois, a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a rapporté l'agence officielle KCNA. Il survient moins d'une semaine après un durcissement supplémentaire des sanctions internationales contre Pyongyang en représailles à ses récents tirs d'engins balistiques. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Claire Morin-Gibourg.
La ligne de chemin de fer Ngaoudéré-N'Djamena va-t-elle enfin voir le jour ? Le Premier ministre camerounais Philemon Yang a reçu hier à Doum Younousmi, le ministre tchadien en charge des infrastructures, afin d'évoquer les avancées du projet de construction. Selon M. Younousmi, les financements sont maintenant disponibles. L'Afrique ne tire pas encore profit du Fonds vert pour le climat, qui lui accorde pourtant 10 milliards de dollars chaque année. Ce sont les conclusions de l'Observatoire des valeurs éthiques et sociétales qui animait hier une conférence sur le changement climatique à Dakar. Selon eux, les États africains n'arrivent pas à soumettre une masse critique de projets qui pourraient absorber ces fonds. Orange a lancé un nouveau fonds dédié aux start-up africaines en mars dernier. Dans une interview au journal La Tribune, Pierre Louette, le directeur général, en dévoile les contours. 25 millions d'euros seront investis dans des fonds spécialisés dans le digital sur le continent. 25 autres millions seront investis en direct dans des sociétés dans les secteurs de la santé et des télécoms.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018 dans la zone Amérique du Nord et centrale.
Les Américains retrouvent le sourire après une victoire 2-0 contre Trinidad et Tobago. Un résultat qui permet aux États-Unis de se relancer avant le choc de dimanche contre le Mexique.
Le Mexique, Nicolas, qui jouait jeudi soir face au Honduras, un score de 3-0 en faveur du Mexique. La route vers la Coupe d'Afrique des Nations 2019 commence ce vendredi.
La première journée débute ce soir par un Libye, Seychelles et Soudan, Madagascar. Et samedi, des gros chocs en perspective, Burkina, Angola, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc et République démocratique du Congo contre le Congo à Kinshasa. On s'attend à un derby de feu entre les deux voisins. Le point avec Thierry Kamboundi de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM.
Revenus de leur stage du Maroc dans la nuit du jeudi 8 juin 2017, les léopards de la RDC ont repris du service à Kinshasa dès jeudi soir en prévision du match de ce samedi face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. L'objectif pour nous reste la victoire afin d'entamer dans les meilleures conditions les éliminatoires de cette CAN 2019, a dit Florent Ibenge, le sélectionneur principal des Congolais de Kinshasa. Leurs adversaires arrivent ce vendredi dans la capitale de la RDC pour ce derby du fleuve Congo. Sébastien Minier, le tout nouveau sélectionneur des Diables, voudra venger son mentor Claude Leroy, car lors de la dernière confrontation entre les deux sélections nationales, les Congolais de Kinshasa l'avaient emporté 4-2 après avoir été menés 2-0. C'était en quart de finale de la CAN 2015. À l'époque, il était l'adjoint de Claude Leroy. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et dans la zone Europe?
Oui, à suivre ce soir un choc dans le groupe A à Stockholm, Suède-France. Quant au Portugal, il se déplace en Lettonie, les Pays-Bas face au Luxembourg et enfin Estonie-Belgique.
Angleterre-Venezuela, ça sera la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Le Venezuela n'avait jamais atteint une finale de Coupe du Monde, c'est désormais chose faite grâce à son équipe des moins de 20 ans qui a disposé de l'Uruguay au tir au but, un but partout à la fin du temps réglementaire. Puis dans la séance des tirs au but, 4 tirs au but à 3 pour les Vénézuéliens qui l'ont donc emporté hier en Corée du Sud. Ils affronteront en finale l'Angleterre qui s'est débarrassée de l'Italie 3-1 dans l'autre demi-finale.
NBA peut-être le titre ce vendredi soir à Cleveland pour Golden State.
Oui, Golden State qui mène 3-0 face à Cleveland, vous en parlez hier. Golden State qui n'a plus besoin que d'un succès pour empocher son deuxième titre de champion NBA en 3 ans. LeBron James et ses coéquipiers sont en danger ce soir à domicile pour le 4e match face à des Warriors, toujours invaincus depuis le début des playoffs. Les Warriors qui ont signé mercredi une 15e victoire consécutive, améliorant leur propre record NBA. C'est tout simplement du jamais vu dans l'un des grands championnats professionnels nord-américains.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République du Congo, la fédération de l'opposition a organisé hier à Brazzaville une marche pour demander l'arrêt des combats dans le Poule et la libération des prisonniers politiques. La manifestation a été dispersée par la police qui a interpellé une dizaine de jeunes. Pour sa part, le gouvernement a de nouveau souligné que le dialogue n'aura pas lieu dans de telles conditions. De Brazzaville, Ngwelangoussou.
Cette marche improvisée à la place d'une déclaration est partie de chez Claudine Mounari vers la préfecture de Brazzaville, un peu sur un kilomètre. La manifestation n'a pas été autorisée, si bien que certains responsables de l'opposition, craignant la réaction de la police, se sont mis à l'écart. Mais le professeur Charles Zachary Boaou et Claudine Mounari ont été en première ligne.
On avait dit à la conférence nationale, plus jamais ça. On a dit, remartelez, plus jamais ça. On a même lavé les mains. Alors, on nous invite à une mascarade de réconciliation. Est-ce qu'on peut laver les mains quand l'eau est rouge du sang des victimes? On peut laver les mains dans du sang? Dire qu'on a lavé les mains, est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est notre combat.
Pour le professeur Boaou, il faut un dialogue inclusif sur la situation du pays.
Avec ce qui se passe dans le Poule, c'est une honte qu'en ce siècle, après ce que nous avons connu à la conférence nationale souveraine, que nous nous retrouvions encore au point de départ. Le Congo a reculé, on ne sait pas de combien d'années. Ça, les élites doivent se lever et dire non.
Le gouvernement a estimé que cette marche n'avait pas été autorisée et que l'État ne se plierait pas à des demandes répétées de l'opposition si celle-ci ne respectait pas les institutions en place. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement.
La raison unique de la dispersion de la manifestation, c'est qu'elle n'était pas autorisée. Écoutez, le président de la République a toujours convoqué des dialogues. Il n'y aura pas de dialogue. S'il s'agit de contraindre l'État à dialoguer avec M. Ntoumi, il n'en est pas question. Je dis bien, il n'en est pas question. C'est une position constante exprimée par le président de la République et le Premier ministre au nom de l'État. Donc, oui, si ce dialogue a lieu dans le cadre des institutions, parce que c'est un dialogue institutionnel, politique, légal et permanent.
À la fin de la marche, une dizaine de jeunes ont été interpellés, dont Landry Boumbeya, responsable de la jeunesse de l'opposition. Ngwelangoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile s'élèvent contre le nouveau projet de code électoral proposé par le gouvernement. L'UPC, premier parti de l'opposition, qualifie ce projet de recul démocratique car il y voit la suppression de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a aussi la question du vote des Burkinabés de l'extérieur. De Ouagadougou, les explications de Zoumana Wonogo.
Le document proposé par le gouvernement fait environ 160 pages et comporte 386 articles. De ces articles, l'opposition s'élève contre trois principalement. On écoute Nathanaël Ouedraogo, le secrétaire chargé des questions électorales de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, sur les points querellés.
Par exemple, l'article 384 dit que jusqu'à la mise en place effective de l'autorité administrative indépendante en charge des élections, la Commission électorale nationale indépendante CENI et ses démembrements demeurent compétents pour l'organisation et la supervision des opérations. Donc, vous voyez que c'est clair que la CENI est transitoire et que c'est les deux ACI qui vont maintenant le remplacer. Et ce qui est grave, l'article 382 de ce nouveau code dit la mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabés résidant à l'étranger se fera de manière progressive à partir de 2020. C'est à partir de 2020. Ça veut dire que ça peut être après le vote présidentiel qu'on va commencer à autoriser les Burkinabés à l'étranger de voter. L'article 383 dit que les pièces d'identification ayant servi à l'inscription sur les listes électorales tiennent progressivement lieu de carte d'électeur.
Tout le monde est d'accord que le code électoral dans son format actuel a besoin d'un toilettage. Cependant, assure Pascal Zaïda, coordonnateur de l'OSC cadre d'expression démocratique CED, il ne s'agit pas de faire un chamboulement total.
On ne peut pas remettre en cause ce qui a été l'aboutissement d'un consensus général. On ne peut pas remettre en cause ce qui est démocratiquement reconnu par l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, on peut retoucher certains éléments de la centralisation des données entre l'Office national de l'identité l'éducation et la CENI pour qu'on parte directement sur la base de la carte d'identité nationale comme un élément de base. On peut revoir peut-être, mais pas carrément, supprimer la CENI et renvoyer au ministère de l'administration territoriale en charge d'organiser les élections. Le ministère est partisan et comme Omar Bongolim nous l'a dit, vous ne pouvez pas organiser une élection depuis la Berne.
Face à cette levée de boucliers, le ministre de l'administration, Simeon Sawadogo, a dit ceci.
Je voudrais vous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI. Et aucune disposition dans le document de travail qui existe ici ne supprime la CENI. Je défie quiconque de me donner un passage quelconque qui dit que la CENI doit être supprimée. Et on n'a pas. Le deuxième point, le vote des Burkinabés de l'étranger. Sur cette question, le gouvernement est ferme. Le président du Faso a pris l'engagement. Et personne d'autre ne remet cela en cause. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Si c'est le projet que nous avons produit là, il est là, il n'a pas dit le contraire. La réaction de l'opposition, pour moi en tout cas, elle est surprenante, dans la mesure où d'une part, mon département a fait preuve donc de la plus grande ouverture, et d'autre part, l'opposition elle-même, par correspondance, 2017-09, ce forum du 10 mars 2017 a répondu à notre sollicitation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme au niveau donc du secours électoral.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Suite de la brouille entre Riyad et Doha, beaucoup de pays africains s'alignent derrière l'Arabie Saoudite. La Mauritanie a rompu ses relations avec le Qatar, le Sénégal, le Tchad, après le Sénégal, rappelle son ambassadeur à Doha. Le Gabon dénonce les agissements récurrents du Qatar, c'est une citation. Sur les raisons avancées par la Mauritanie, Idriss Fall a joint notre confrère Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune à Nouakchott.
Dans le communiqué qui avait été envoyé par le ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie, il reproche à l'État du Qatar d'être un émirat qui finance un peu les groupes terroristes et encourage la propagation d'idées extrémistes. Voilà en fait la principale raison. Et surtout aussi que la Mauritanie dit avoir œuvré pour que dans la région du Moyen-Orient, que la paix et la sécurité puissent régner.
Aussi, le Sénégal a rappelé son ambassadeur.
Oui, pas que le Sénégal. Nous avons appris également que le Gabon aussi a emboîté le pas. Au départ, nous croyions que c'était seulement les pays arabes musulmans qui étaient engagés dans cette dynamique de rupture des relations qui intervient plusieurs jours après la visite en Arabie Saoudite du président américain Donald Trump. Cette visite avait été l'occasion pour beaucoup d'autres chefs d'État africains de venir rencontrer le nouveau président des États-Unis.
Les États-Unis ont l'une des plus grandes bases militaires à Qatar, donc n'ont aucun intérêt à alimenter une bisbille entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, non?
Mais aussi paradoxal que cela peut paraître, il ne faut pas oublier également que Donald Trump est un homme d'affaires qui est parti régler d'abord l'histoire de vente d'armes avec l'Arabie Saoudite, et vous avez vu l'ampleur avec laquelle il a été reçu en Arabie Saoudite. L'existence de cette base dans le Qatar, ça peut participer à une logique sécuritaire, mais la rupture des relations avec le Qatar, qui a été engagée par l'Égypte, il faut le reconnaître, qui est aussi une puissance dans le Moyen-Orient, on peut changer de cap à tout moment. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a la Russie de l'autre côté, avec aussi le pays de Recep Tayyip Erdogan, de la Turquie. On a comme l'impression qu'il se passe une sorte de chamboulement.
De petits pays comme la Mauritanie, le Sénégal et le Gabon, on a l'impression que c'est le menton qui suit le mouvement de la tête. La tête étant l'Arabie Saoudite qui donne de l'argent.
Bon, nous sommes en Afrique. Par exemple, si vous prenez la CEDEAO dont on a parlé tout récemment par rapport à l'invitation qui avait été faite au Premier ministre de l'État d'Israël, beaucoup de chefs d'État ont renoncé à venir, y compris par exemple le roi du Maroc. Je ne sais pas si c'est un jeu d'intérêt qui pousse les États africains à agir ainsi. Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas encore autonomes au point d'avoir des choix diplomatiques qui soient le reflet d'une souveraineté. Cette rapidité avec laquelle, par exemple, des pays comme le Sénégal, la Mauritanie réagissent montre, dans une certaine mesure, une sorte de dépendance de ces États-là vis-à-vis de certaines forces, de certaines puissances du monde.
Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune à Nouakchott.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La La conférence inédite des Nations Unies sur les océans prend fin aujourd'hui à New York après une semaine de travaux. Les participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile et du secteur privé, appellent à une mobilisation générale afin d'inverser la dégradation préoccupante du plus grand écosystème planétaire. Pour l'ONU, il s'agit de la poule aux œufs d'or que l'humanité a négligée. Qu'est-ce qui ressort de cette grand-messe ? De New York, Jacques Aristide a fait un premier bilan avec Jean-Victor Nkolo du bureau du Conseil spécial de l'ONU sur l'Afrique.
Il faut d'abord souligner que, après l'accord de Paris, la conférence de Paris sur le changement climatique, cette conférence ici à New York est le premier véritable événement, la première occasion pour la famille des nations de se retrouver autour de ce sujet qui est très important. Et malgré la décision des États-Unis, du gouvernement américain, de se retirer de cet accord, on se rend bien compte que la famille des nations a une fois de plus redéfini et reconfirmé son engagement dans cette problématique. La conférence ici à New York a très précisément réaffirmé que l'objectif du développement durable est au centre en réalité. Parachever le développement durable fait partie, n'est-ce pas, de cette dynamique de s'attaquer au changement climatique.
Du côté de l'Afrique, cette annonce importante du président gabonais Ali Bongo à la conférence, celle de la création de la plus grande zone maritime protégée d'Afrique, 9 parcs marins, 11 réserves aquatiques, exemple à suivre sur le continent.
C'est une sortie très importante du président gabonais, mais en réalité, c'est tous les pays africains, y compris l'Union africaine sous la présidence de M. Moussa Faki, qui sont tout à fait déterminés à non pas seulement faire valoir le point de vue africain, mais à montrer que l'Afrique joue un rôle important et dispose de ressources très importantes compte tenu des belles forêts qu'il y a en Afrique, et notamment la forêt au sein de laquelle se trouvent le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo. Nous avons une seule planète, nous avons des océans. Nous avons, grâce à ces forêts, un véritable phénomène d'énergie verte, d'air un peu plus pur, alors que d'autres pays sont, eux, des pollueurs. Donc l'Afrique, en réalité, doit être remerciée et nous devons tout mettre en œuvre pour que le continent africain soit véritablement bénéficiaire, surtout pour ce qui est du développement. Il faut aussi préserver l'océan parce qu'il y a un patrimoine culturel aquatique et subaquatique très important et l'Afrique, par ses rivières, par ses océans, et par la nécessité de la surveillance de ces océans, notamment pour ce qui concerne la pêche ou la pêche industrielle à outrance, l'Afrique a vraiment beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre. Donc tout ce qui concerne l'Afrique dans cette problématique concerne en réalité le reste de l'humanité et la planète qui nous appartient à tous.
À quoi faut-il s'attendre lors de la clôture de cette conférence aujourd'hui ?
Il faut s'attendre à un réengagement de tous les États membres. Il faut s'attendre à l'adoption d'un consensus et d'une déclaration, n'est-ce pas, qui va vouloir réaffirmer l'association des gouvernements du système des Nations Unies et des organisations intergouvernementales ainsi que de la société civile pour sauver les océans, pour sauver la mer, pour préserver cet héritage qui est un héritage pour le monde entier. Donc, le rendez-vous de New York a été très important et compte tenu des doutes, du débat, des controverses qu'il y a eu autour de la question du changement climatique, le seul fait que les pays soient quand même venus à New York, se soient rassemblés et réaffirmés leur détermination vis-à-vis du changement climatique est en soi déjà une victoire pour l'avenir.
C'était Jean-Victor Nkolo du bureau du Conseil spécial de l'ONU sur l'Afrique.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Linden dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.